Merci à vous et merci de m'accueillir dans votre séminaire. Alors moi, je vais vous parler plus précisément de ce que la révolte en Syrie, révolte transformée en conflit, de ce que cette situation en fait a fait à la production cinématographique. Alors je vais d'abord esquisser un petit peu les effets globaux de ces bouleversements sur le champ cinématographique. Et puis, je vais essayer de vous montrer comment ce contexte a joué et continue à jouer sur la manière de faire des films. Alors, que ce soit au commencement de la révolte et aussi dans une temporalité plus actuelle qui est la temporalité du conflit. Et donc, on va essayer de voir dans quelle mesure ces événements ont imposé de nouvelles temporalités, de nouvelles techniques aussi et de nouvelles thématiques. Et pour illustrer mon propos de manière un petit peu plus concrète, je vais m'appuyer sur l'expérience tout à fait original d'un collectif de cinéastes syriens qui s'appelle Abu Nadara, pour vous donner un exemple particulièrement abouti d'une pratique cinématographique qui se pense avec les événements, tout en proposant aussi un point de vue singulier et distancié par rapport à ces événements. Donc je vais vous montrer quatre courts-métrages de ce collectif sur une période allant de 2011 à 2014, et collectif qui, depuis sa création en avril 2011, a réalisé à peu près 200 courts-métrages. Alors pour commencer, je dirais que au début de la révolte en mars 2011, le milieu du cinéma en Syrie a été complètement dépassé par les événements, dans le sens où les cinéastes et plus largement les intellectuels et les artistes ne s'attendaient absolument pas à ce que des gens ordinaires descendent dans la rue pour demander la chute du régime. Donc les intellectuels et les cinéastes ont été d'autant plus mal à l'aise que certains d'entre eux avaient été à la pointe de la contestation dans les années 80 et 90. Et je pense notamment à quelqu'un comme Oussama Mohamed ou alors Mohamed Manas ou encore Nabil Maleh, qui sont tous ces cinéastes, et à tout ce courant du cinéma d'auteur en fait que j'avais étudié dans ma thèse et qui est représentatif de ces formes d'expression euphémisées, détournées, qui avaient cours pendant la période autoritaire et qui étaient cantonnées à une certaine élite. Et donc la révolte, elle est vraiment venue marquer une rupture radicale avec les formes d'expression critique qui prévalaient pendant cette période. Alors, évidemment, tous les cinéastes n'ont pas soutenu la révolte, et de ce point de vue, il y a eu véritablement une partition au sein du champ cinématographique syrien. Mais, peut-être on va en reparler tout à l'heure, là je vais m'intéresser à ceux qui ont soutenu la révolte, mais ceux qui ont soutenu les manifestants, les cinéastes qui ont soutenu les manifestants, l'ont d'abord fait par l'écrit, par voie pétitionnaire en fait, en publiant un manifeste sur Facebook. Donc c'est vous dire quand même le décalage qui pouvait exister entre ces cinéastes qui dominaient le champ cinématographique et qui, j'ai oublié de le préciser, étaient fonctionnaires d'État qui travaillaient au sein de l'Organisme National du Cinéma, donc entre cette élite intellectuelle, artistique et ces gens qui manifestaient dans la rue et qui affrontaient les balles réelles. Et au début de la révolte, en fait, les cinéastes qui ont été vraiment le plus réactifs, qui ont été le plus en phase en fait avec le mouvement populaire, ce sont ceux qui se sont engagés dans la révolte par l'image. Et ces cinéastes-là sont pour la plupart des autodidactes qui exerçaient à la marge des circuits institutionnels. Et de ce point de vue, on a pu observer, donc la révolte a fait ressortir une scission générationnelle mais aussi professionnelle, très nette, entre ces cinéastes qui exerçaient en fait dans l'orbite de l'Organisme National du Cinéma, qui sont tous plus ou moins âgés d'une cinquantaine, soixantaine d'années, et ceux plus jeunes, beaucoup moins en vue, qui sont aussi davantage tournés vers le documentaire et habitués à faire des films avec des petits budgets. Donc on a eu d'un côté ces cinéastes qui ont une formation académique souvent prestigieuse au VGIC de Moscou par exemple, qui exercent au sein d'une structure étatique dans laquelle ils bénéficient évidemment d'un temps long de réalisation et d'une infrastructure conséquente pour réaliser leurs films. Donc d'un côté ces cinéastes. Donc ces cinéastes se sont d'abord engagés dans la révolte par le non, hein, en signant voilà, etc. Et ces cinéastes-là, il faut attendre quelques années pour qu'ils s'engagent par l'image. Hein. Et je pense notamment, j'ai l'exemple le plus parlant, qui est celui d'Oussama Mohamed. Et de l'autre côté, on a ceux qui se sont d'emblée engagés par l'image, qui sont donc des cinéastes plus jeunes, plus familiers avec le cinéma documentaire, et qui ont un rapport un petit peu décomplexé, plus spontané avec la technique. Et donc ce sont eux qui sont vraiment à l'origine d'un renouvellement de la production cinématographique en Syrie depuis 2011. Alors il faut souligner aussi que la banalisation de la technologie numérique a ouvert l'accès à la réalisation, hein, réalisation qui n'est plus le monopole de professionnels consacrés par des formations académiques ou alors par leurs accès privilégiés à des entités de production. Et donc, on assiste depuis 2011 à une ouverture du champ cinématographique qui est d'autant plus importante que ce moment révolutionnaire a créé une véritable demande, un besoin d'image en fait, pour documenter les événements. Puisque en Syrie, on a un embargo sur un embargo médiatique où seuls les journalistes agréés, acceptés par le régime, peuvent venir faire des images. Alors, dans le contexte particulier de la révolte, la pratique cinématographique va être soumise à de nouvelles contraintes et à de nouvelles façons de faire. D'abord, on va observer un temps de réalisation des films qui est réduit, dans la mesure où le cinéma va se concevoir dans son rapport plus ou moins immédiat avec les événements. Et dans ce cadre, le court et le moyen métrage apparaissent vraiment comme des formats privilégiés. On remarque aussi que la réalisation se fait parfois de manière collective et souvent dans l'anonymat. Alors, évidemment pour des raisons de sécurité évidentes, mais aussi et surtout parce que finalement, l'acte et la parole vont importer plus que la renommée. Et en produisant, donc voilà, on a moins en tout cas cette notion de cinéma d'auteur avec le nom, le cinéaste qui est le dépositaire de son art. Là, on est dans des formes beaucoup plus collaboratives en fait de cinéma. Et aussi, on va avoir beaucoup de jeunes cinéastes qui vont produire et qui vont diffuser eux-mêmes leurs œuvres sur des plateformes de partage sur Internet, comme YouTube ou surtout Vimeo, en fait. Et donc, voilà, toutes ces nouvelles pratiques vont vraiment bouleverser les logiques du champ cinématographique dominant, ainsi de suite. Et donc, cette indépendance, elle va vraiment favoriser la créativité, en même temps qu'elle permet potentiellement aussi de toucher un vaste public, ce qui n'était absolument pas le cas du cinéma syrien, qui était vraiment un cinéma confidentiel, réservé à des cercles cinéphiles et intellectuels. Voilà. Alors de manière générale, c'est la forme documentaire qui est privilégiée, mais ce registre n'exclut évidemment pas la subjectivité, bien au contraire. Et s'il s'agit de documenter les événements, il s'agit aussi de formuler des points de vue singuliers, personnels, sur ces événements. Donc la production cinématographique qui a émergé avec le moment révolutionnaire en 2011, c'est une production très hétéroclite en termes d'écriture filmique et de qualité, hein, qui varie beaucoup en fonction des auteurs. Et cette production rend compte aussi de différentes formes d'engagement par l'image qui vont mettre en tension valeur documentaire et démarche esthétique de différentes manières. Alors, pour schématiser un petit peu ces types d'engagement par l'image, on peut distinguer deux grandes tendances. La première va consister à filmer les événements in situ, en train de se faire, alors que l'autre catégorie va consister à faire des films à partir d'un matériau audiovisuel divers, élaboré en dehors de la captation des événements. Alors la première tendance va regrouper des films qui ont été principalement tournés pendant les manifestations dans différentes villes syriennes. Et l'objectif principal de ces films, c'était de mettre en avant le caractère pacifiste de la révolte, tout en donnant aussi des éléments de contextualisation permettant d'expliciter les revendications des protestataires. Et il s'agissait évidemment aussi de dénoncer la répression par toute une série de témoignages. Ces films, donc on observe vraiment entre 2011-2012, ces films ils sont vraiment à mi-chemin entre le registre documentaire et celui du reportage. Et en fait, la plupart ont été diffusés sur la chaîne de télévision arabe El Arabiya. Alors cette catégorie de films a mobilisé des cinéastes qui avaient déjà une expérience dans la réalisation, mais elle a été aussi faite par des activistes preneurs d'images qui ont été formés sur le tas. Alors au début de la révolte, il faut savoir que des jeunes cinéastes un peu expérimentés, des jeunes cinéastes ont participé de manière informelle à former certains activistes à l'image et au montage. Mais par la suite, en fait, cette demande de professionnalisation, elle a rapidement été captée, entre guillemets, par des ONG internationales, dont les objectifs se situent davantage dans le champ du politique que dans celui de l'art. Hein, on est plutôt dans une logique d'empowerment, soutenir la société civile, etc. La grande rhétorique des ONG. Et c'est par exemple de cette manière qu'en 2012, une plateforme de production qui s'appelle Kayani, dont le siège est à Beyrouth, a été créée. Donc c'est un groupe qui a été financé par des fonds européens, c'est une association qui s'adresse aussi bien à des activistes médiatiques qu'à des jeunes Syriens qui ont des projets de films, de cinéma, et donc qui va proposer des ateliers de formation aux techniques audiovisuelles et à l'écriture cinématographique. Donc cette association produit également des films, et dans ce cadre, des cinéastes syriens reconnus, donc de l'ancienne génération, ceux notamment qui ont participé à la pétition dont j'ai parlé précédemment, des cinéastes ont été sollicités pour animer des ateliers à Beyrouth. Alors le but exprimé par cette association, c'est, pour reprendre leurs termes, d'encourager la créativité des jeunes activistes et cinéastes dans leur quête de liberté. Je cite. Et voilà, c'est un lexique un petit peu lyrique comme ça, de la page de présentation du collectif. C'est une forme de lyrisme qu'on retrouve aussi beaucoup dans le contenu de certains films réalisés par ce collectif, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais donc on a ici vraiment une conception un petit peu romantique de la révolte. Et cette conception, elle fait écho à une certaine rhétorique artiste, entre guillemets, de la révolte, qui a eu tendance toujours à survaloriser le courage des protestataires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été courageux, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est ce discours de toujours axé sur la créativité de certains modes d'action pacifistes, le graphe, les chants, les pancartes imagées, etc. Et donc ce discours qui est tenu entre 2011 et jusqu'à 2013 dans les arènes publiques par de nombreux artistes reconnus et souvent relayés par les directeurs de festivals ont eu tendance à produire vraiment une version folklorisante en fait, de la révolte. Et on peut penser que ce folklorisme révolutionnaire est particulièrement porteur à ce moment-là. Et donc cette rhétorique artiste, elle a aussi été mobilisée par certains cinéastes au sujet de vidéos amateurs réalisées par les manifestants et les activistes. Et finalement, à mon sens, c'est une manière pour eux de se réapproprier ces vidéos en les recadrant dans un discours cinématographique Et c'est, ce discours a pu être véhiculé dans les articles de presse arabes, dans lesquels les vidéos elles vont être analysées, commentées d'un point de vue vraiment esthétique et technique cinématographique. Alors ce discours esthétisant sur les vidéos amateurs peut prendre aussi la forme de projections. Hein. Je pense notamment à un festival organisé par Doxbox, hein, qui avait eu lieu à Beyrouth en 2013, où là, finalement, dans le cadre d'un festival de cinéma, on présentait des vidéos amateurs glanées sur Internet. Alors, cette réappropriation des formes documentaires amateurs par des cinéastes est arbitraire, dans le sens où elle ignore les intentions et les nécessités premières à partir desquelles ces vidéos ont été produites. Mais par contre, elle va permettre à des cinéastes reconnus de se donner un rôle dans cette production qui les a totalement dépassés. Ça leur permet aussi d'exercer une forme d'autorité artistique par la formation de jugement esthétique en fait, sur ces productions. Et le meilleur exemple dans ce que je suis en train d'évoquer, c'est certainement Au Argenté, d'Oussama Mohamed, où là on a vraiment une réappropriation d'une production amateur qui est réinsérée dans un énoncé cinématographique, avec, en plaquant un discours esthétique sur des vidéos absolument terribles. On pourra peut-être en parler en discussion pour ceux qui l'ont vu. Alors la deuxième catégorie d'engagement par l'image, qui est beaucoup plus marginale en fait, elle n'implique pas forcément une captation en direct des événements, elle n'implique pas non plus forcément une présence en Syrie sur le front, même si cette présence peut être épisodique, et elle assume aussi une posture esthétique beaucoup plus affirmée. Alors cette posture, elle s'exprime dans les formes filmiques, mais aussi dans un désir d'autonomie vis-à-vis des logiques des mondes de l'art et des médias. Et la plupart des cinéastes qui s'engagent sur cette voie vont autoproduire leurs films et vont directement les diffuser sur Internet. Alors cette démarche, c'est notamment celle qui a été adoptée par le collectif de cinéastes anonymes Abun Abdallah, qui a réalisé, comme je vous le disais, près de 200 courts-métrages depuis le début de la révolte. Alors, à l'origine, Abun Abdallah, avec deux D tout attaché, je vous l'appelle peut-être, c'est A-B-O-U-N-A-2-D-R-A. Ça veut dire l'homme aux lunettes. Donc, Abun Abdallah, c'est une société de production qui a été créée à Damas avant la révolte, en 2010, et qui était spécialisée dans la réalisation de courts-métrages, moyens courts-métrages documentaires. Et puis, un mois après le début du soulèvement, les fondateurs de la société publient un manifeste en arabe, un court texte en fait en arabe sur Facebook, pour souligner la nécessité d'une intervention dans la production des images de la révolution, pour lui rendre hommage, tout en la donnant à voir autrement, c'est-à-dire avec les outils du cinéma. Et donc, à partir de ce moment-là, donc à partir de ces réflexions, cette nécessité d'agir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est ça le point de départ. La société va se délocaliser à Paris et va se transformer en... Enfin, à Paris va avoir lieu toute la post-production, le montage, tout ça. Et elle va se transformer en collectif ouvert à des jeunes Syriens, documentaristes, alors qu'ils soient professionnels ou amateurs, hein, il y a de tout. Qui travaillent en Syrie et ailleurs, principalement à Beyrouth et à Paris, sous couvert d'anonymat. Alors, et depuis ce avril 2011, ce manifeste, chaque vendredi, le vendredi qui était jour principal de manifestation en Syrie, chaque vendredi, le collectif réalise un court-métrage qu'il met en ligne sur le site Vimeo et sur sa page Facebook, que je vous invite vivement à consulter. Si vous tapez Abun Abdallah dans Google, vous avez tout ce qu'il faut. Donc toute la production est visible gratuitement sur Vimeo aussi. Et tous les films, tous les courts-métrages sont en arabe, mais ils sont aussi sous-titrés en anglais et en français. Alors, ce collectif revendique un cinéma d'urgence, c'est leur leitmotiv, un cinéma qui soit réactif et profondément inscrit dans l'événement. Et Sharif Kiwan, qui est le porte-parole d'Abu Nadara, m'a expliqué que leur motivation initiale, c'était vraiment de se défendre, en fait, contre les images de la révolte qui circulaient. C'est-à-dire celles des activistes qui étaient recyclés dans les médias, mais aussi celles du régime, qu'ils jugeaient insupportables en raison de leur caractère ultra-violent et spectaculaire. Donc pour eux, il s'agit vraiment de se distancier très clairement des conventions du monde médiatique, dont ils font vraiment une critique radicale. Alors cette expérience, elle rappelle par certains côtés les ciné-tracts de mai 68, qui avaient été conçus par Chris Marker, Godard, consistant dans des très courts clips d'informations sur les événements, avec de l'écrit, de contre-information, c'était de la contre-information. Donc on retrouve chez Abu Nadara le même format très court, très percutant, et finalement c'est cette même volonté de démocratiser un petit peu la pratique cinématographique. Mais en fait, chez Abu Nadara, on a vraiment un éclectisme des registres narratifs, visuels, qui vont puiser à la fois dans le documentaire, mais aussi dans la fiction. Et on va passer du spot publicitaire aux vidéos amateurs. On a vraiment tout un foisonnement en fait, d'écriture qui dépasse largement, à mon sens, l'expérience des ciné-tracts et qui va ouvrir aussi une perspective originale du point de vue de l'usage militant du langage cinématographique. Alors cette démarche du collectif, elle est originale à plusieurs titres. Tout d'abord, elle va saisir vraiment les événements à chaud, dans une forme de réactivité qui est d'habitude incompatible avec la démarche cinématographique, qui, elle, au contraire, s'inscrit plutôt dans une temporalité longue. Là, on est vraiment dans une dynamique de l'urgence qui est extrêmement contraignante, finalement, en termes de format et d'écriture. Parce que la réalisation d'un court-métrage par semaine, ça impose vraiment une écriture de la brièveté et de la sobriété, en fait, qui doit être efficace et percutante. Et cette efficacité du message, elle est construite à partir d'une écriture, vous allez voir, qui est très épurée, qui va vraiment à l'essentiel, sans pour autant aussi tomber dans le didactisme habituel du cinéma militant. Et donc là, on va retrouver une certaine place à l'ambiguïté. Il y a souvent des choses un petit peu qui vont rester en suspens. Autre aspect qui fait la singularité de la démarche d'Abu Nadara, c'est cette frontière toujours très ténue en fait, entre le documentaire et la fiction, qui passe par une écriture complètement hybride, qui va faire feu de tout bois, c'est-à-dire qui va utiliser une multitude de sources audiovisuelles. Alors, on a certaines images qui sont tournées par le collectif pendant les événements, mais on a aussi beaucoup d'images tournées avant 2011, qui vont être en fait retravaillées, soit avec du son actuel, pour signifier quelque chose sur les événements. Donc, c'est une démarche très intéressante. Donc on a aussi des remixes d'images et des remixes beaucoup de sons tirés de YouTube, des sons d'archives, des photomontages, enfin bref. C'est vraiment très 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 divers. Un autre point important sur la proposition cinématographique d'Abu Nadara, c'est qu'elle critique ouvertement la couverture médiatique sur la Syrie, alors par son travail filmique, mais aussi au moyen de tribunes dans les quotidiens arabes et français surtout, parce que Sharif Kiwan est basé en France, et c'est le porte-parole, et c'est souvent lui qui écrit ses tribunes alors, dans Le Monde, dans Libé. Et en fait, de manière générale, le collectif reproche aux médias d'une part d'enfermer les Syriens dans une espèce de représentation binaire héros-victime, et d'autre part, surtout depuis la radicalisation du conflit, le collectif dénonce la surenchère médiatique sur le spectacle de la violence et de la barbarie, qui, selon eux, et là je cite, bafoue le droit à une image digne pour les Syriens. C'est leur grand. Voilà. C'est devenu un peu leur ligne de lutte, en fait. C'est de respecter la dignité des Syriens à l'image. Alors, pour vous donner une meilleure idée de la démarche de ce collectif, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient avant?
Oui.
Alors, j'ai choisi de vous montrer quatre courts-métrages qui illustrent un petit peu l'originalité de leur écriture filmique, mais qui vont montrer aussi comment leur cinéma a évolué depuis 2011. Alors, c'est très quatre courts-métrages sur 200, c'est un petit peu arbitraire, et c'est un peu... mais bon, il faut bien faire des choix. Donc, qui vont montrer cette évolution, parce que, évidemment, voilà, on ne raconte pas la même chose, on ne fait pas du cinéma pareil, quand on est en guerre aussi, qui est un espèce de phénomène total, et qui, avec toute la violence aussi que ça a engendré, donc ça a évidemment des effets sur les thématiques, l'écriture et le point de vue. Donc les films vont suivre une logique chronologique, on va partir de 2011 et on va arriver à 2014, à chaque fois je vous rappellerai la date. Et en fait je vous propose, alors je ne vais pas les passer à la suite parce que ça passe très vite, c'est des formats très courts, c'est 1 minute 30, donc voilà, il faut être, voilà, c'est assez rapide. Donc on va s'arrêter à chacun d'entre eux pour les commenter, pour que je puisse un petit peu souligner aussi le contexte et ce qui en fait la spécificité. Alors le premier court-métrage que je voudrais vous montrer, il s'appelle « Sous le ciel de Damas ». Il a été réalisé en novembre 2011. Et si j'ai choisi ce film, c'est parce que c'est vraiment un film manifeste sur la démarche du collectif, dans le sens où ce court-métrage va prendre à contre-pied les images qui circulent sur YouTube à l'époque des manifestations. À l'époque, ces images-là, c'était des images tremblante, tirée de YouTube avec les cadres qui vacillent. Ce sont ces images que vous avez certainement en tête qui sont prises au cœur des manifestations. Voilà, donc préparez-vous, c'est très court.